you'll love me tomorrow. Baby, please don't leave me with a lovebirds. Love, 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 love.
Voilà, avec Fred Chapelier et puis au chant Ahmed Mouissi, donc sur ce live qui s'appelle tout simplement Fred Chapelier Plays Peter Green, live recording enregistré pour le compte de Dixie Frog Records. Je vous rappelle que Fred Chapelier sera ce soir en concert, ce soir, donc on est aujourd'hui samedi 24 novembre, hein, attention, c'est pas de la rediff, c'est du direct ici, à partir de 22h au Souboc à Couville, voilà, une petite trentaine de kilomètres de Caen. Il reste encore quelques places. On poursuit en ce début de deuxième heure avec un autre album, et ensuite on retrouvera nos nouveaux invités, Amandine Rose et Charlie Faber de Rosedale. En attendant, voici un autre album Dixie Frog qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Global Griot. Il est signé Eric Bibb, et voici Race and Equality.
When you hear the lies of bigots, instead of taking it personally, discover how their minds got twisted by the lies of history. Our ancestors whisper guidance, so don't hesitate to heed them. They'll help you find your way on the winding road to freedom. It's what I tell my youth when they come to me, asking about race and equality. Humanity might seem divided by skin color and religion. I believe the truth is we're united. In God's eyes, there's no division. It's what I tell my youth when they come to me, asking about race and equality. God made you. Don't fix what needs no fixing. Your hair, nose, lips, and hue claim their own perfection. Beauty's in the eyes of the beholder. Yet every culture has its own ideal. True beauty doesn't fade as you grow older. You're beautiful. Tell my youth when they come to me, asking about race and equality. Mm-hmm.
album fantastique à découvrir qui s'appelle Global Griot, signé Eric Bibb. A signalé également que l'illustration de pochette est signée Jean-Paul Pagnon. Voilà, une superbe peinture de Jean-Paul Pagnon de monsieur Eric Bibb. Et puis voilà, il y a plein de musiciens qui ont participé à ce disque, dont peut-être vous connaissez le suédois Staffan Asner, qui l'avait accompagné il y a quelques années sur toutes les scènes du monde. Voici monsieur Eric Bibb à nouveau donc dans un superbe double album qui contient non pas moins de 24 titres enregistrés en France, en Suède, en Angleterre, aux États-Unis, en Jamaïque, au Canada et au Ghana, s'il vous plaît. Voilà, un travail énorme. On reste chez Dixie Frog avec Rosedale, et juste après, le titre qui vient, ce seront Amandine et Charlie, respectivement chanteuse et guitariste du groupe Rosedale, qui répondront à toutes vos questions sur le 666. Ça s'appelle Down the Line, Rosedale.
Such a restless life, tried so hard to make it right. My so-called friends were not to be found. I was lonely and left behind.
No one answered my SOS. I was drowning in total mess. I almost left to cut myself away towards the feeling of a better day.
Life's what you make it. It's on you to shape it. Happiness is down the line. Only you can chase it before you run out of time.
Well, no lucky star, miracle game.
From the chains of deceit, you gotta stand on your own two feet.
I said, life's what you make it. It's on you to shape it. Happiness is down the line. Only you can chase it before you run out of.
Un album formidable pour qui aime le blues rock, mais pas que. On va découvrir tout ça en détail avec Charlie et Amandine. C'est le groupe Rosedale, l'album Wide Awake, dont j'ai extrait ce titre. Bonjour Amandine, bonjour Charlie, comment ça va ?
Hello Marc, comment ça va ? Ça va super, nous ?
Très bien. Bah, quand je vous parle à tous les deux, ça va très bien. Charlie, tout va bien ?
Ouais, super.
Sur le même téléphone, hein ?
C'est ça.
Voilà. Alors, l'album précédent s'appelait Long Way to Go. Je voulais juste savoir si le chemin avait été un tout petit peu plus court pour vous amener jusqu'à Wide Awake, ou si vous pensiez qu'en progressant, comme vous le faites, la route est toujours aussi longue.
Oh, je crois que c'est une route un peu interminable.
Ouais.
Et tant mieux, quelque part. Et on avait envie de sortir un deuxième album relativement rapidement après le premier, parce qu'il y a eu un an et demi entre les deux. Et Dixie Frog et Philippe Langlois nous ont suivis voilà, tout de suite sur l'idée. Et voilà, le chemin, disons qu'on continue d'avancer et dans la bonne direction. On est très content de ce qui se passe pour le groupe à l'heure actuelle.
Amandine, par contre, elle n'est pas contente du tout de ce qui se passe en ce moment pour le groupe. On est d'accord, on le voit tous les jours sur Internet.
Ah non, pas du tout contente. Non, je suis ravie, je suis vraiment heureuse également. Et puis... Et comme a dit Charlie, je pense qu'on est sur la bonne route. On va essayer de maintenir le cap et puis de continuer tout droit. Voilà.
On va pas hésiter, Amandine et Charlie, à parler tout près du combiné. De ce côté-là, ça va à peu près. Mais enfin, le matériel, voilà, c'est du matériel, quoi. Hein et c'est, okay. Ça passe pas à 100%. Mais bon, je pense que les auditeurs vont être à même de comprendre tout ce que vous avez à leur dire. Moi, j'aimerais bien, en une minute chacun, si vous voulez bien, que vous nous retraciez un petit peu votre parcours. Et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé à la création du groupe Rosedale il y a 2 ans. Amandine, si tu veux bien commencer.
Ok. Alors en fait, j'ai commencé la musique très jeune, à l'âge de 11 ans. Enfin 9 ans même, à 9 ans j'avais commencé l'accordéon, après un peu de piano, et puis le chant, réellement le chant à l'âge de 11 ans.
Mmh.
Et puis depuis cet âge-là, c'est vrai que je savais pertinemment que je voulais en faire mon métier. Et voilà, je l'ai toujours su. C'est sûr qu'à l'école, tout ça, c'est pas évident quand on nous demande ce qu'on veut faire plus tard et qu'on dit qu'on veut faire de la musique. En général, c'est pas trop considéré, malheureusement, comme un métier. Mais
on voit le visage de la maîtresse consterné en se disant, mais attends, t'es sûr, tu veux pas aller plutôt faire caissière à Leclerc?
Non, mais le truc, c'est que je pense qu'on est tous faits pour quelque chose. Et puis, ouais. Moi, je savais déjà que j'avais envie de faire ça. Et je me suis toujours battue pour essayer de garder ce rêve en fait en tête et j'ai bossé beaucoup pour essayer de le réaliser. Et après, ce qui était important, je pense aussi, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Parce qu'avant, pour moi, c'était vraiment qu'une passion, c'est-à-dire que je gagnais pas du tout ma vie avec ça. C'était
oui.
vraiment à côté. Mais mon but, c'était vraiment de pouvoir en vivre. Mais pour ça, j'avais besoin vraiment de rencontrer les bonnes personnes, de faire la musique que j'aime, parce que j'avais pas envie de faire quelque chose juste pour gagner entre guillemets de l'argent et de faire quelque chose qui me plaisait pas.
Mmh.
Et en rencontrant Charlie.
Et un jour, t'as mis une petite annonce, belle chanteuse cherche guitare héros, et ça a marché.
En rencontrant Charlie, c'est vrai qu'il y a eu ce truc tout de suite, cette petite étincelle où je me suis dit waouh, ce qu'il fait. Enfin, on arrivait vraiment à se retrouver tous les deux dans des styles de musique qui nous plaisaient et au niveau des compos, ça se passe très bien. Et puis c'est sûr que ce jour-là, pour moi, enfin, après la rencontre avec Charlie, la création de Rosedale, je me suis dit bon, je ferme mon école de chant parce que j'arrivais plus à gérer.
Oui, tu avais une école de chant, précisons-le. Ouais.
Voilà, j'avais une école de chant pendant 2 ans. Qui c'était super, mais c'est vrai que j'arrivais plus à gérer tout le travail qu'il y avait à faire, parce que Rosedale, ça nous prend vraiment tout notre temps, tous les jours, tout le temps.
Mmh.
C'est pas pour me plaindre, hein, moi j'adore ça, mais c'est vrai qu'il fallait faire un choix, et j'ai fait le choix d'y aller à fond, parce que j'y crois. Et puis aujourd'hui, je suis heureuse et ravie de me dire qu'à 30 ans, enfin, je peux dire que je vis enfin de ce que j'aime. Voilà.
Très bien, belle présentation. Ouais, pour faire court, non, c'est bien. On a bien campé le personnage Amandine Rose. À toi, Charlie, si tu veux bien.
Moi, pour faire très court sur mon parcours, les grandes lignes, j'ai commencé à jouer à 14 ans de la guitare après avoir entendu Stairway to Heaven. Je me suis acheté, en fait j'ai revendu,
c'est pour ça que j'ai mis un t-shirt de Led Zeppelin aujourd'hui, tu vois, c'est...
Je suis un grand fan. et voilà, j'ai revendu tous mes jouets à la foire aux jouets de ma ville pour m'acheter une guitare dans les petites annonces.
Oui.
Qui jouait faux, qui explique pourquoi je joue encore faux parfois aujourd'hui.
Mais non.
C'est pas vrai.
Et voilà, et j'ai eu plein d'opportunités. Je suis parti en tournant en Russie pour faire de la variété française quand j'avais 17 ans, avec un artiste. J'ai eu la chance de tourner en Allemagne, ensuite avec un groupe de World en Hongrie.
Avec Yvon Robrov, c'est ça?
Avec Cœur de Sable, c'était le groupe en question.
D'accord.
Le groupe qui n'existe plus. Et voilà, après j'ai rencontré pas mal d'artistes en France, en Écosse et tout ça. Je suis parti en tournée en Angleterre avec Paul Cox. On a travaillé ensemble pendant 2 ans.
Paul Cox, on l'a entendu chanter dans le titre tout à l'heure.
Exactement, c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on voulait l'inviter sur l'album, qu'on voulait que c'était la bonne occasion de se réunir à nouveau, quoi, pour faire quelque chose. Et puis après, j'ai rejoint le groupe de Fred Chapelier pendant 7 ans. Et une fois, on a fait une masterclass à la Musique Académie Internationale de Nancy, qui est une école de musique actuelle, école dans laquelle Amandine était étudiante pendant une année. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, en 2013.
Et également la ville d'où vient Denis Palatin, votre batteur.
Absolument, c'est ça.
Et notre clavier.
Et notre clavier aussi, voilà.
Vous parlez de Pierre-Alain Gualch, là.
Non, en fait, le clavier, depuis juillet, nous a rejoint
Serafin
Palmeri.
D'accord.
Qui est un mec adorable et un excellent clavier. Il joue aussi avec Cascadeur, dans un genre complètement différent.
Ah oui, je sais pas si ça te parle. Oui, si. Ça me parle, mais j'écoute pas souvent, mais ça me parle, oui.
Voilà. Ils ont gagné les victoires de la musique et maintenant il fait du blues.
C'est ça.
Donc voilà, on peut pas faire que des choses
c'est
bien.
C'est excellent comme raccourci.
Et voilà, et puis donc avec Amandine, on s'est rencontrés en 2013. On s'était toujours dit que ce serait cool un jour de faire quelque chose. Et l'occasion s'est présentée en 2016. On a fait une répète de 2 heures ensemble avant un premier concert sur un festival en Alsace devant 5000 personnes. Et c'est là qu'est parti le projet.
Et là, c'était le révélateur, le détonateur pour l'existence de Rosedale. Un album a suivi très très vite. Vous avez eu la confiance de Dixie Frog dans la foulée, malgré qu'il n'y ait pas eu forcément avant de démo. Comment vous avez fait? Vous avez soudoyé, monsieur Langlois?
En fait, Philippe... Philippe...
un million d'euros.
Non, Philippe Landau avait entendu notre premier EP. On avait fait un EP à 300, qui était sorti à 300 exemplaires.
C'est
donc
pour ça que j'en ai pas eu un seul. Ouais, d'accord.
Et qui s'était très bien vendu d'ailleurs avant qu'il soit sorti. Et Philippe Landau l'avait entendu. Il y avait qu'une de nos chansons dessus. Le reste c'était des reprises. Et là, ça faisait 6 mois que Rosedale existait. Et donc en décembre 2016. Philippe Langlois nous a dit, je vous laisse. En gros, il nous a laissé carte blanche. Il a dit, si vous êtes chaud, on l'était évidemment, je vous signe votre premier album.
Excellent.
Et puis, c'était ce premier album qui était super speed parce qu'il nous a dit ça en décembre. À la base, il voulait tout terminer, mixer en janvier.
Et ça a pris un tout petit peu plus de temps que prévu ou non? Vous avez vraiment fait ça dans l'urgence?
Excuse-moi, j'ai pas compris.
Non, je veux dire, ça a pris vraiment ce si peu de temps-là, ces quelques semaines-là, ou alors vous avez réussi à avoir un petit peu de temps de rap pour...
On a eu un tout petit peu de temps, un tout petit peu de temps de rap, mais c'est vrai qu'on a tout fait en un mois.
Les morceaux qui figuraient...
Les morceaux, écrire les morceaux, tout ça s'est fait en un mois.
Les morceaux qui figuraient sur le premier EP...
Sur le premier album, Long Way To Go,
voilà, et on les retrouve sur ce disque, premier album. Et maintenant, le deuxième album est sorti, ça y est, début novembre, toujours chez Dixie Frog, et il s'appelle Wide Awake. Pourquoi Wide Awake?
Alors en fait, on a réalisé qu'il y a pas mal de gens qui avaient notre premier album qui s'attendaient à un titre qui fasse un peu réponse à Long Way To Go, dans le nom. Et vu qu'on n'aime pas faire ce que les gens attendent, on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire complètement autre chose.
Ouais, et là, c'est pour ça qu'Amandine a ressorti l'accordéon.
Voilà, exactement. Ah. Et qu'on a fait un album métal, accordéon métal. Voilà.
Avec Yvette Horner, d'accord, oui, bien sûr.
Un special guest.
On l'a invité.
Mais en fait, on voulait aussi que le deuxième album ne soit pas considéré comme une suite, mais vraiment comme un album à part entière.
Oui.
Et on s'est vraiment penché sur le nom... C'était difficile de trouver un nom, parce qu'on ne voulait pas non plus que ce soit le nom d'un des morceaux pour mettre particulièrement un morceau en avant.
C'est la question que j'allais te poser, il n'y a pas de titre qui s'appelle Wide Awake?
Non, il n'y a pas de titre qui s'appelle Wide Awake, par contre il y a un morceau qui est The Sun Won't Rise Today, qui est le troisième morceau de l'album.
Mm-hmm.
Les premiers mots du morceau c'est Wide Awake, voilà.
Voilà.
Et Wide Awake, on a les yeux fermés sur la pochette, parce que on voulait vraiment transporter cette image du... L'idée qu'on peut être pleinement éveillé, que l'esprit peut être là, même avec les yeux fermés, que tout ne se fait pas forcément par les yeux, et particulièrement la musique, quoi.
On écoute ça, justement.
Late at night, and I feel on edge. I keep moving, nervous like...
Et là, ça part en bémol. J'ai envie de dire, voilà, c'est comme tu disais pour le titre, pour le deuxième album. C'est également pour la construction des morceaux. Il y a des accords qui, bah, qu'on n'attend pas forcément. C'est pas du 3 accords, 12 mesures, le répertoire de Rosedale.
Non, c'est justement l'idée, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on tenait à, dès le début, à faire nos compos. Et sur les deux albums, il n'y a que des compositions. Et on voulait vraiment, au-delà de faire de la musique, on voulait faire notre musique, quoi, faire du blues rock, mais à notre façon. Et avec Amandine, on aime particulièrement les morceaux qui sont un peu surprenants, qui, quand un morceau commence, qu'on sait pas, qu'un auditeur qui l'entend pour la première fois puisse pas forcément deviner où ça va aller. On aime bien ce genre d'ambiance et de surprise, quoi.
Sacré challenge. En tout cas, pas toujours facile pour les musiciens, parce que je pense il y a quelques temps, il y a pas si longtemps, il y avait un concert auquel Phil Sisler, le bassiste, n'a pas pu assister. Il y a un autre bassiste qui a pris le répertoire au pied levé. Faut être un extraterrestre pour savoir faire ça en 24 heures, non?
Ah oui, c'était Billy Tempo. Il a vraiment assuré grave, en fait, parce que il a eu les titres le soir, la veille. Donc il a assuré, il a pas fait un pas. Enfin, c'était vraiment, il a fait un travail exceptionnel. Il s'est vraiment investi pour assurer le concert. Effectivement, c'est pas facile, mais il a géré, quoi. Donc,
voilà.
C'est cool.
Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire heureusement qu'on peut écrire la musique et la lire, non?
Ouais, mais en fait, on peut toujours, nous on le sait pas forcément, moi je sais pas lire la musique par exemple.
Tu sais pas lire la musique, Charlie?
Non, enfin, je sais pas le solfège. Je comprends un petit peu le solfège rythmique.
Oui.
Je comprends évidemment tout ce qui est tablature, les grilles d'accords, tout ça.
Oui, bien sûr.
Mais en fait, ce qu'on fait pour les basses quand on écrit les morceaux, c'est que je programme les idées que j'ai, quoi, en midi. Ça, c'est la beauté de la musique assistée par ordinateur. Mm-hmm. Voilà, je programme les batteries, des basses, des claviers si j'ai l'idée. Et voilà, c'est ça qui sert de base, en fait. Et on envoie ça aux autres musiciens, et chacun apporte sa touche, ce qu'il verrait dans leur rôle, parce que dans l'absolu, moi, je suis ni batteur, ni bassiste, ni clavier. Et voilà, c'est eux qui apportent cette authenticité de leur instrument, quoi.
Voilà, c'est comme ça qu'un morceau de Rosedale est créé. C'est toi qui apportes l'idée musicale en premier, toujours?
Pas toujours, beaucoup plus sur le premier album, mais sur le second. Amandine avait aussi des idées. Fireplace, par exemple, et Dance with the Devil, c'est des morceaux qui viennent vraiment d'Amandine.
Mm-hmm.
Elle avait des idées d'ambiance beaucoup, le texte aussi, en grande partie. Et j'ai essayé un maximum de ce qui a été relativement facile, parce qu'on est très souvent sur la même longueur d'onde. J'ai essayé un maximum de coller à cette ambiance, et puis voilà, d'essayer d'apporter entre guillemets cette touche Rosedale sur ça, quoi.
D'où la signature des titres, c'est soit Charlie Faber, soit Amandine Rose et Charlie Faber. En tout cas, les compos, c'est toujours toi qui y touches dans les premiers, forcément, Charlie.
Ouais, disons que c'est vraiment un truc qui me passionne, quoi. Pour moi, la musique, ça se résume en deux choses. La première, c'est de jouer en live, et la deuxième, c'est de créer, quoi.
Ouais.
C'est vraiment ça qui m'intéresse.
D'accord, donc ça veut dire qu'il est absolument hors de question, que ce soit sur scène ou sur disque, de faire une compile un jour avec Sweet Home Chicago, Soul Is Gone et compagnie.
C'est pas impossible que ça arrive un jour.
Tiens. Parce que tu aimes justement aller là où les gens ne t'attendent pas, c'est ça, Charlie, en fait.
Exactement. Quand les gens ne l'attendront plus, peut-être qu'on sortira un album que de standards de blues, mais par contre, si un jour on faisait ça, on s'assurerait que ce soit vraiment le mieux fait possible par respect de ça, quoi, parce que c'est évidemment c'est une musique qu'on adore, c'est vraiment partie de nos influences, quoi.
Amandine, toi, tu sais lire la musique, par contre?
Un petit peu, ouais.
Ouais.
Disons que je lisais la musique, à l'époque où je faisais de l'accordéon, du piano, tout ça, mais c'est vrai que vu que je ne pratique plus, j'ai quand même perdu beaucoup de choses, mais quand c'est pas trop compliqué, je peux lire, mais c'est vrai que j'en ai pas forcément l'utilité.
Voilà, c'est pas forcément important, c'est même pour communiquer, même pour aider un bassiste qui dépanne.
Non, ça me manque pas du tout, on arrive très bien à communiquer comme ça, donc non, j'en ai pas l'utilité, on va dire.
Il y a Thierry Langrand qui intervient sur le Facebook Sweet Home Chicago, qui vous donne un petit message, qui vous dit des morceaux avec des breaks et reprises sur contretemps, d'enfer les poteaux. C'est vrai qu'au niveau des structures, au niveau des structures, on est assez surpris, on est agréablement surpris, et en même temps, je sais pas, il y a un côté, j'ai pas envie de dire lisse parce que ça va pas être le mot correct, mais il y a un côté propre dans ce que vous faites. Il y a pas une once de petites choses qui dépassent, mais il y a une authenticité qui se dégage quand même de votre musique. J'ai envie de dire, c'est bon, c'est entre le chaînon manquant, entre Muddy Waters et puis Stanley Clark ou des gens. Tu vois, non, mais voilà, c'est vraiment le grand écart.
C'est belle référence.
L'étiquette blues rock, c'est trop petit pour ce que vous faites quand même.
En fait, je pense qu'on ne se pose pas réellement la question. Si tu veux, on n'essaie pas de se dire si on va faire du blues rock.
Bonne réponse, Charlie. C'est exactement là que je t'attendais.
en fait, c'est vraiment là que ça prouve que c'est la musique qu'on aime, parce que, si tu veux, il n'y a jamais eu un morceau qu'on a écrit en se disant ça, on pense que c'est un bon morceau, mais on va pas le faire parce que ça sonne trop ci ou trop ça, ou pas assez
blues. Vous ne vous interdisez rien dans les styles, en fait, c'est ça.
Et voilà, en fait, tout se fait vraiment naturellement. On marche vraiment au feeling, et quand un morceau nous touche, même quand on écrit, c'est pareil pour les parties de guitare et tout ça, qui est souvent la base des morceaux, vu que je suis guitariste, mais souvent je prends pas la guitare en essayant de trouver un riff ou quelque chose. J'essaie de me chanter des choses et de les enregistrer à la voix avec mon dictaphone. Et voilà quoi, à force, les idées se créent comme ça. On essaie de penser vraiment plus musique qu'instrument, quoi, en soi.
D'accord.
Et pour le côté propre, moi, c'est quelque chose que j'aime personnellement. On a essayé de s'entourer un maximum de d'excellents musiciens que d'amis humainement parlant. Et quand ils sont entrés en studio, je veux dire, on n'a pas fait un mois de studio pour faire les prises, quoi. On n'avait jamais joué les titres avant ensemble, pas une seule fois.
Ouais,
on s'est retrouvés au studio après qu'ils aient eu les démos programmées, et on a enregistré toutes les bases rythmiques de l'album en 3 jours, quoi.
D'accord. Oui, là, c'est énorme, effectivement. Voilà. Et ensuite, il y a eu un travail fait par Jared Gwitka. Est-ce que tu peux nous parler de ce producteur? Toi, Charlie, ou toi, Amandine, hein, comme vous voulez.
Alors, en fait, Jared, on était en contact avec lui parce qu'on adorait son travail. Il travaille en fait avec Kevin Shirley, qui produit tous les albums de Bonhamassa, Bess Hart.
Bonhamassa et Bess Hart, ça fait partie des questions que j'ai pour vous tout à l'heure. Ouais.
D'accord. Donc, il a travaillé avec Bonhamassa et Bess Hart aussi, avec Kevin Shirley sur les...
Et avec Iron Maiden aussi.
Avec Iron Maiden, avec John Hiatt, avec énormément de monde. Il a fait des musiques de films aussi, Iron Man 3. Voilà, j'arrête. C'est vraiment c'est un mec qui a notre âge à peu près.
D'accord.
Il est un tout petit peu plus vieux que nous, mais voilà, on est un peu dans cette génération. Et on s'est retrouvé vachement. Et quand on l'a contacté, c'était financièrement relativement inaccessible pour nous. Et il a entendu notre version de notre blues City Limit live que Bonhamassa et Bess Hart avaient enregistré. Il était aux manettes ce jour-là.
Grand classique de Tina Turner, popularisé par Tina Turner. Ouais.
C'est ça, exactement. Et il nous a dit qu'il adorait notre version, qu'il sentait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et tout ça. Et quand on lui a parlé de l'album et des moyens qu'on avait, il a dit... Il nous a dit, écoutez, on va se débrouiller, quoi. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, on va trouver une solution, mais je veux le faire.
Génial. Et là, donc, l'album était enregistré, il restait à mixer, à masteriser. Quel était son travail? Quel était son regard sur votre musique? Et qu'est-ce qui a changé entre l'aller et le retour, finalement?
Beaucoup de choses. En fait, on a envoyé toutes les prises les plus clean possibles, mais avec vraiment notre son. On a fait des prises très simples, quoi. Toutes les guitares de l'album sont enregistrées uniquement avec un SM57. Enfin, il n'y a pas... On n'a pas fait ça genre gros studio avec 12 micros par instrument, parce que pour la batterie où il fallait évidemment un peu d'acoustique et tout ça. Et Jared s'est énormément investi dans le mix, dans des idées, des faits sur certains passages, etc. Il a essayé beaucoup de choses, surtout qu'il a eu un temps très limité pour mixer l'album. Il a mixé l'album en une semaine.
Ah oui,
et pour 10 titres, c'est vraiment énormément de travail.
Ouais.
Et le master, normalement, les albums qui sortent par Dixie Frog sont masterisés par le mec de chez Dixie Frog, qui n'était pas dispo à ce moment-là.
Ouais.
Et Philippe Langon nous a dit bon, bah, voyez de votre côté si vous avez une idée en tête.
Donc, encore une fois, monsieur Carte Blanche a frappé.
Exactement.
Incroyable.
Et je vais te dire à quel point Carte Blanche, c'est que. Donc, on a demandé à Jared s'il avait un plan pour le mastering. Il a demandé service à une amie à lui qui s'appelle Piper Payne à Auckland, qui a travaillé avec Bob Katz, etc. Enfin, énormément de monde qui a une réputation énorme. Elle nous a fait le mastering de l'album. Et en fait, Philippe Langlois a entendu le résultat final de l'album quand on lui a envoyé le mastering d'après-fait pour Sony, quoi.
D'accord. Donc, si ça lui avait pas plu, c'était pareil, en fait. C'est ça l'idée.
Ouais, mais exactement. Mais je pense que c'est la beauté d'une boîte comme Dixie Frog, où ils fonctionnent de manière vraiment humaine et toujours en mettant les volontés des artistes en avant. C'est que Philippe, il a vraiment une confiance. Aveugle en nous, et c'est une chance énorme pour nous, parce que voilà, jamais il nous a dit il faut faire ci ou ça, à partir du moment où il a dit signe le deuxième album, il voulait faire un deuxième album de Rosedale, quoi. Et voilà, il s'est dit que personne d'autre n'était mieux placé que nous pour savoir ce qu'on voulait faire.
Amandine, on écoute Charlie nous parler avec passion de la transformation en fait entre l'enregistrement, le mixage et le mastering de l'album. Est-ce que tu as, Amandine, en tant que chanteuse, un regard différent ou est-ce que c'est le même par rapport à tout le travail en amont qui a été fait et puis le rendu finalement? Est-ce que tu es satisfaite de ce produit qui s'appelle maintenant Wide Awake, qui est en vente partout?
Ouais, franchement, je suis vraiment très 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 contente du résultat. Et honnêtement, j'étais confiante quand j'ai su avec qui on allait travailler, donc avec Jared, puis ensuite avec Piper Payne. J'étais honnêtement rassurée, hein, j'avais pas de soucis là-dessus. Je savais le CV que ces personnes avaient. Et puis j'ai vu tout le travail, comme tout le monde s'est investi dans cet album. Et non, j'étais confiante. Et quand on a eu le résultat, je suis vraiment contente du résultat, ouais.
Bon, et ben voilà, donc je crois qu'il n'y a pas à rougir. En tout cas, je sais pas s'il faut faire un classement déjà. Vous avez deux albums à votre actif. Celui-ci, il n'est pas forcément encore meilleur. En tout cas, il confirme, et c'est vrai qu'on vous attendait un petit peu au tournant, comme tous les albums qui sortent un superbe, comme tous les groupes, pardon, qui sortent un superbe premier album. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous attendaient au virage, et le virage a été très, très habilement négocié. En tout cas, c'est mon humble avis, mais je pense qu'on peut le partager avec plein d'auditeurs et sûrement des belles critiques qui sont déjà arrivées.
Ouais, alors on a eu plusieurs chroniques déjà en France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande. Donc vraiment des belles chroniques qui font très plaisir à lire. Mmh. Et ce qui donne forcément pour nous en tant qu'artistes de lire tout ça après tout ce travail, ça nous donne beaucoup d'énergie positive et ça nous donne forcément encore plus envie d'avancer. Je sais pas quoi dire à part qu'on est vraiment heureux pour le moment. Donc voilà.
Bon, écoute, ça baigne. Alors, on parlait tout à l'heure de Buddha Massa et de Beth Hart qui sortent des albums, je sais pas, à peu près tous les 6 mois. Beth Hart a sorti au début de l'année un live. Elle en sort un double live la semaine prochaine encore, enregistré au Royal Albert Hall de Londres. Enfin, c'est quelqu'un qui enregistre à tour de bras. Ça va être une question pour toi, Amandine. Beth Hart, pour toi, c'est qui? C'est un extraterrestre? C'est une femme hors du commun? C'est une chanteuse comme les autres? C'est qui, Beth Hart, à tes yeux?
Alors, j'ai eu le plaisir, je t'en avais parlé en plus. C'est prévu qu'on aille la voir à Strasbourg. Ouais. Alors au départ c'était compliqué machin, mais on a pu finalement aller la voir.
Bah, moi je trouvais ça inconvenant que franchement que Amandine Rose ne se déplace pas pour aller voir Beth Hart à côté de chez elle.
C'était vraiment incroyable. Alors, pour moi, alors déjà depuis quelques années, depuis que je suis Beth Hart, ça doit faire depuis 2013 environ. C'est vraiment une artiste que j'admire beaucoup. Alors bon, sa voix, on n'en parle même pas. C'est monstrueux ce qu'elle fait. Mais en plus, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage sur scène. Elle a un charisme, une authenticité que j'aime beaucoup. Mmh. Et c'est vrai que le fait de la voir en live, j'étais hyper émue. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est en l'entendant en live, on se rend compte à quel point elle a un niveau absolument incroyable. Parce que alors le charisme, ça reste évidemment le même. Et vocalement, c'est... Je ne saurais même pas te définir à quel point je trouve qu'elle est monstrueuse et incroyable, quoi. Pour moi, c'est... Alors, je ne vais pas dire que c'est un alien, mais elle est vraiment authentique. Et c'est vraiment, je crois, ce qui me plaît le plus en fait chez elle. C'est ce côté qui est... elle est vraie. Tu sens pas, quand elle est sur scène, tu ne sens pas quelque chose de surjoué ou de pas naturel en fait.
Tu as eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Beth Hart?
Malheureusement, non. J'espère
que ça sera
pour une autre fois.
Voilà. Effectivement. Et puis la même question, j'ai envie de dire, pour Charlie, à propos de Joey Bonamassa, qui lui aussi est un boulimique de l'enregistrement et des concerts. Il y a un album live, il y a un album studio, enfin, il y a plein de choses qui sortent depuis une quinzaine d'années. Joey Bonamassa ne laisse pas passer une année sans faire un album ou deux. Qu'est-ce que tu penses de la façon de travailler de ce boulimique du blues qu'est Joey Bonamassa, Charlie?
Alors, Bonamassa, je pense que, en fait, il y a une énorme machine marketing qui s'est faite autour de lui. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'il sort énormément d'albums. À côté de ça, on peut aimer ou pas, mais je pense qu'on peut prendre n'importe quel album de Bonamassa qu'il a sorti ces 10 dernières années. En matière de qualité, je veux dire, la qualité est toujours là, quoi. C'est vraiment c'est bien produit, bien fait, tout ça. Après il fait énormément de reprises aussi, hein, c'est ça qui lui permet de sortir des choses beaucoup plus régulièrement.
Oui.
Et il fait beaucoup de live aussi, donc c'est relativement plus simple à faire parce que les morceaux sont déjà écrits et tout ça. Mais je pense que l'intérêt majeur d'un mec comme Bonamassa de nos jours, je trouve qu'il fait un peu cet effet sur les jeunes générations,
oui,
qu'avait Stevie Ray à son époque, qui est de faire redécouvrir, d'attirer des jeunes vers le blues, quoi. Mmh. Et ça, je pense que c'est un truc qui est génial, parce que Benoît Massal lui-même est un fan des Trois Kings, d'énormément de légendes. Et du coup, il y a, je pense, des jeunes qui ne s'intéresseraient pas forcément à eux, qui le découvrent via lui. Et ça, c'est une chose super, quoi.
Très bien. Oui, c'est vrai que, encore récemment, il a fait un album consacré au British Blues, qui s'appelait British Blues Explosion. Il a fait également, il y a quelques temps, un hommage à Muddy Waters, Soling Wolf. Il présente des artistes du passé, on va dire, avec le son d'aujourd'hui. Et il sert, et non pas il se sert, c'est-à-dire il sert leur musique avant même, je pense, c'est une opinion tout à fait personnelle, mais je pense qu'il ne se met pas forcément en avant sur ce type de répertoire.
Oui, c'est ça, ouais, carrément.
Voilà. Alors, Beth Hart, Joey Bonamassa, ce sera peut-être une première partie dans un festival, ça fait partie de vos rêves ou pas forcément?
J'adorerais, hein. J'adorerais, et le top du top pour nous, ce serait de faire la première partie de Bonamassa et Beth Hart.
Ouais.
Mais je t'avoue qu'on aurait une sacrée pression quand même.
Et alors justement, sur scène, vous êtes en train de commencer à défendre cet album qui s'appelle Wide Awake. Le groupe Rosedale est sur les routes. Comment est l'accueil? Comment est-ce que vos fans vous en parlent de ce disque-là?
Alors pour le moment, l'accueil est vraiment formidable. On a joué hier soir à Nice, dans la salle Loreca.
Mmh. D'ailleurs, tu avais prévu de m'envoyer un petit rayon de soleil, c'est fait. Hein, mais c'était
on aurait beaucoup voulu t'envoyer un rayon de soleil.
C'était très modeste.
À partir d'aujourd'hui, là, il fait très beau, mais hier, c'était pas ça. On se croyait un petit peu chez nous, en Alsace. Mmh. Mais non, l'accueil est vraiment, pour le moment, formidable. Les gens, on a vraiment de beaux retours des gens, quoi. Ils viennent nous voir après le concert, au stand. Ils nous disent qu'ils ont apprécié. On a reçu encore des mails ce matin par rapport à hier soir. C'est vrai que c'est dans le secteur ici, c'est la première fois avec Rosedale qu'on joue dans ce secteur.
Oui.
Les retours, ouais, ils sont très bons.
Voilà, c'est une découverte pour la plupart des gens, même si vous ont déjà écouté en disque, ils vous ont jamais vu sur scène pour la plupart d'entre eux. Et donc, un bon accueil. Ouais.
C'est justement un phénomène qu'on ressent un peu en ce moment qui est vraiment agréable. C'est que depuis le début de Rosedale, en fait, les concerts sont toujours ultra bien passés, mais beaucoup de gens qui venaient voir Rosedale n'avaient jamais entendu un morceau sur album avant. Mmh. Et découvraient en live.
Ah oui, d'accord.
Et du coup, voilà, c'était super, mais là on a une sensation vraiment différente, qu'énormément de gens, en fait, qui viennent nous voir ont déjà au moins le premier album, voire déjà les deux, ou alors écoutent notre musique sur Internet, YouTube et tout ça.
Mmh.
Et il y a une vraie différence sur scène quand on sent que les gens connaissent les morceaux qu'on joue, quoi. Parce qu'ils ne viennent pas seulement voir un concert de blues, ils viennent écouter des chansons particulières. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Parce que
ça, c'est important ce que tu dis, parce que ça veut dire que les gens voient avant tout le travail de composition. Enfin, tu parlais tout à l'heure, au tout début, Amandine, de deux mots importants, à mon avis, par rapport à ton approche de la musique, c'est les rencontres et le travail. Et là, le travail, la création de chansons, ça va au-delà, bien sûr, de ce que peuvent appréhender la plupart des artistes de blues, à savoir des reprises et puis quelques compos dans un esprit blues. Mais non, il y a une autre démarche dans Rosedale.
Voilà, c'est ça. On essaye vraiment de faire des chansons, tout ça. Et puis c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui nous disent c'est vos chansons, c'est vos morceaux, c'est vos titres. Et comment dire, ils sont aussi surpris un petit peu, je crois, souvent, de voir, entre guillemets, des gens de notre âge, de la trentaine ou un peu plus âgés, s'orienter aussi vers tout ce qui est blues.
Oui.
Il y a des gens qui sont agréablement surpris et qui aiment aussi le côté la fraîcheur qu'on peut apporter, justement le fait que ce soit pas standard et que ce soit des chansons, quoi.
Voilà, mais écoute, je crois qu'on a bien résumé effectivement la musique. On est en train de continuer à faire dérouler cet album. Et tout à l'heure, je vous demanderai quel est le titre qu'on pourra entendre après cette interview. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute en entier? Je vous pose déjà la question pour que vous puissiez réfléchir. Mais il y a deux noms à propos desquels je voudrais vous faire réagir. D'abord, ce sont deux personnes qui ont collaboré au disque. Tout d'abord, le claviériste Johan Dalgaard, qui lui ne compte plus les collaborations qu'il a faites avec de multiples musiciens, que ce soit en blues ou dans d'autres horizons, bien sûr. Comment ça s'est passé, la collaboration avec Johan?
Très, très simplement, en fait. Johan, c'est un ami. On a déjà joué ensemble, etc. Et en fait, au moment où on enregistrait l'album, on prenait En fait, on changeait de clavier à ce moment-là.
Ouais.
Pour plein de raisons, mais sans aucun drame. Mais il se trouve que on n'avait pas de clavier au moment d'enregistrer.
D'accord.
Et on s'est dit qui de mieux au monde peut faire des claviers blues qui sonnent blues, piano, orgue et tout ça, autre que Johan, quoi. Mmh. Donc on a écrit à Johan qui était en speed absolu comme d'habitude, parce qu'en ce moment il fait la tournée Benjamin Biolay, il fait la tournée avec Camille, Alain Chanfort, etc.
Il collabore avec plein de gens, il a tourné avec Alain Stivell pas mal de temps, je crois aussi.
Ouais. Il fait vraiment un travail de fou, quoi. Il est tout le temps sur la route, tout le temps studio. Et voilà, on l'a appelé en plus dans nos habitudes, hein, complètement à l'arrache, en lui disant: Johan, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Parce qu'on a un album à faire, on voudrait absolument que tu fasses les claviers. Est-ce que tu as le temps? Et Johan a répondu direct: je vais le trouver.
Ouais, ça c'est excellent.
Et ce qui est hallucinant pour l'histoire, c'est que il a enregistré tous les claviers de l'album en moins de 10 heures, quoi.
Oh. Alors là lui, pour le coup, je pense qu'il doit savoir lire le solfège sur le bout des doigts. Qu'est-ce que tu en penses, Charlie?
Alors c'est possible, mais je pense même pas qu'il les ait écrits, vu que en fait, il a juste eu les morceaux sans aucune partition, sans rien.
Donc monsieur s'est joué à la feuille aussi. C'est dégueulasse. Il y a des gens qui ont tous les talents, c'est pas normal.
Et les idées, quoi. Parce que jouer en soi, c'est une chose, mais surtout avoir toutes les idées qu'il a apportées. Il a fait un travail vraiment, vraiment génial. Voilà, on correspondait vraiment à ce qu'on cherchait, à la couleur qu'on cherchait, quoi.
Ouais. Ça s'entend sur l'album. L'album de Rosedale qui s'appelle Wide Awake, qui contient également un autre invité. On a évoqué tout à l'heure la présence de Paul Cox, avec qui tu as pu tourner il y a 8-10 ans, et donc qui est un chanteur anglais qui poursuit sa carrière dans, on va dire, des reprises de Joe Cocker, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, en grande partie.
Voilà. Entre autres,
c'est devenu plus simple de tourner en faisant des tributes qu'en faisant des compos.
Ça, c'est
mais
un autre,
voilà, on tient à se battre pour continuer à faire des compos, quoi.
Et il y a un autre artiste qui nous vient de l'autre côté du Rhin, qui s'appelle Henrik Freischlader, qu'on avait pu rencontrer ici au Souboc. On n'a pas parlé du Souboc ensemble, mais on a de bons souvenirs en commun aussi, je pense. Henrik Freischlader qui va faire votre première partie lundi prochain au New Morning, ou alors qui va faire un double plateau, je ne sais pas comment vous appelez ça.
Ouais, c'est plus ça. Ouais. Henrik, il a une carrière monstrueuse. En fait, l'histoire, c'est que j'ai découvert pour la première fois quand il avait joué au Rock Palace, et j'avais vu ce live, et c'était une claque monstrueuse.
Oui.
Et j'ai eu la chance de le rencontrer parce qu'on jouait sur le même festival en Hongrie en 2014.
Mm-hmm.
Et il se trouve qu'on s'était dit avec Amandine que ce serait une super idée de l'avoir en guest, parce qu'on se sentait vraiment proche de lui. Sur certaines parties musicales.
C'est vrai qu'au niveau stylistiquement parlant, j'ai envie de dire, lui aussi, il est un petit peu à la croisée des chemins entre un style blues rock assez percutant, mais également capable de volutes très jazz rock, comme on l'entend parfois en filigrane dans votre musique à tous.
Complètement. En plus, son dernier album, il s'est tourné en cours, il appelle ça Old School Tour, parce qu'il a voulu revenir à un son moins saturé, plus pur, etc. Et il fait tout ça très bien, quoi, que ce soit du gros rock ou du blues vraiment soft. Il fait ça vraiment bien parce qu'il marche au feeling, et voilà, quoi. Et il se trouve qu'on a signé en Allemagne avec une super agence qui est Florence Miller Agency, qui s'occupe du management d'Henrik depuis je sais pas combien, 10 ans ou plus de 10 ans.
Oui.
Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir le contact. On a parlé à Florence Miller en lui disant: écoute, on adorerait avoir Henrik, est-ce que tu peux lui en toucher un mot? Et elle lui en a parlé, il a écouté Rosedale, dans l'idée il n'était pas contre, mais il voulait entendre le morceau, on lui a envoyé le morceau, il a dit: je le fais.
Et il intervient dans Drifting.
C'est ça.
Voilà, donc deux invités sur ce disque, Paul Cox, Henrik Freischlader. Également, on a parlé de Johan Dalgaard qui a assuré les claviers. Le groupe de base, c'est toujours bien sûr Denis Palatin à la batterie, Philippe Sissler à la basse, Charlie Faber à la guitare, Amandine Rose au chant. Et puis le nouveau claviériste s'appelle
Serapin Palmieri.
Voilà, eh ben on va noter tout ça. L'album Wide Awake de Rosedale, on peut le trouver un petit peu partout, dans les meilleures crèmeries. Et puis, peut-être les prochaines dates de concert pour conclure cette interview, Amandine.
Alors, ce soir, on joue à Valbonne, au Sun City Café. On jouera également le 30 novembre à Lons-la-Ville. Le 26 novembre, jour des 30 ans de Charlie,
et oui,
en plus.
Et oui.
On va... de carrière, qui dit. Et on va jouer au New Morning, donc la soirée où il y aura également Henrik Freischlader. On fait notre release party. Et on aura une deuxième release party qui aura lieu en décembre, donc le 7 décembre à Esslingen, en Allemagne, au Kulturzentrum Dieselstrasse.
D'accord, donc il y aura deux release parties, une à Paris, tu l'as dit, lundi prochain, voilà. Et puis l'autre en Allemagne, parce que j'ai l'impression que le groupe Rosedale est appelé à se produire assez régulièrement en Allemagne.
Ouais, alors en fait, hein, pour l'Allemagne, alors surtout pour 2019, là on a déjà fait quelques concerts, mais pour 2019, il y a beaucoup de choses qui se préparent. D'ailleurs, je t'avais mis dans la confidence.
Oui.
Et c'est encore secret, mais c'est vrai que pour l'Allemagne, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc, on annoncera évidemment ça sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on est plutôt très heureux de l'accueil qu'on a de nos amis, chez nos amis allemands.
En tout cas, moi, je souhaite, au nom de toute l'équipe de Sweet Home Chicago, à moi tout seul, je vous souhaite le meilleur pour, bien sûr, cet album Wide Awake, puis pour tous les concerts à venir. J'ai envie de vous demander, la prochaine fois que vous allez vous produire sur Paris ou en Bretagne ou dans l'Ouest, il faut vous arrêter au sous-bois, les enfants. C'est pas possible autrement.
Ah bah c'est obligatoire. On est en train de chercher tous les moyens possibles pour venir au sous-bois. D'ailleurs, on voulait te proposer d'y jouer 30 jours de suite, comme ça nous, oui, fait moins de déplacements entre, exactement, l'Alsace et la Normandie.
Eh ben, écoute, on va y réfléchir, il n'y a pas de souci. 30 jours de suite, ce ne sera juste pas possible en février, sinon pas de problème, c'est open. Eh bien écoutez, Amandine, merci, Charlie, merci, vous êtes vraiment adorable, vous êtes les musiciens d'aujourd'hui et également les musiciens de demain pour la musique qu'on aime, et continuez à faire venir les jeunes dans les concerts et à faire vivre cette musique qui nous fait vibrer depuis tant d'années. Merci à tous les deux.
Merci à toi, Marc.
Merci mille fois.
Qu'est-ce qu'on écoute? Quel titre vous voulez que je passe de cet album Wide Awake?
Alors, moi j'ai un titre préféré sur l'album, il a été entièrement écrit par Charlie, c'est le dernier titre, c'est The Kind of Man You Are.
Très bien, on va écouter ça tranquillement, c'était ce qu'on avait en filigrane tout à l'heure. On va l'écouter en entier, un morceau de plus de 7 minutes, très 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 très, très cool, hein, comme fin d'album. Merci encore à tous les deux. Ouais, exactement, Led Zeppelin Power. À bientôt sur la route du blues, à vous deux.
À bientôt, gros bisous.
Je vous embrasse. Au revoir.
Tell me the kind of man you are. Will you make a fool of me? Or if I trust you blindly, will you be my eyes to see the kind of man you are? Really count on you. All your words, your promises, can you guarantee them true? The kind of man you are. Now it's time for you to choose. But you got mind. You're betting all I have left to lose. You got to tell me now.
What kind of man you are?
You got to tell me right now.
What kind of man you are?
The kind of man you are. You got to tell me right now. And in the wind,
Rosedale, un groupe absolument talentueux et avec des musiciens adorables. Merci encore à Amandine et à Charlie pour cette interview, découverte de l'album Wide Awake. Et puis, je ne l'aurais pas dit, mais je vous le dis maintenant à vous, hein, parce qu'ils n'écoutent plus, ça y est, non, ils sont toujours de l'autre côté du poste, je le sais. Wide Awake sera le disque du mois pour décembre 2018, voilà, pour Sweet Home Chicago. Qu'on se le dise, sachant que l'album de novembre, c'est Fred Chapelier Plays Peter Green Live Recording. Allez, pour le plaisir, et puis également pour parler à nouveau de cette soirée de lundi, la release party de l'album Wide Awake de Rosedale, avec la participation de Henrik Freischlader. Voici le Henrik Freischlader Band, extrait de Hands on the Puzzle avec Love Straight.
Everything you've got, sent you the train. You've got to
Voilà, donc c'était ainsi que se termine ce titre de Henrik Freischlader. C'est ainsi que se termine la deuxième heure de ce 1047e Sweet Home Chicago.